Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pourquoi donc toutes ces prières dans cette paroisse? Pourquoi prier devant le Saint-Sacrement en silence? Pourquoi cette dévotion qu'on avait voulu écarter, qui est si centrale dans la foi catholique, est-elle revenue dans des paroisses à travers le monde et plus particulièrement en France, alors que la présence de notre Seigneur avait été délaissée pendant tant d'années, dans ces années 70-80? Eh bien, pourquoi êtes-vous là ce matin? Pourquoi êtes-vous pratiquant? Pourquoi êtes-vous de ces ouvriers qui ont été baptisés dans le sang de l'agneau, dans cette vigne mystique, dans ces noces de Cana, où la Vierge Marie a demandé à son Fils de nous donner du vin dans cette vigne qui est la vigne du Père, avec le Fils qui est l'héritier et qui est envoyé? Pourquoi certains travaillent dès leur baptême enfant? Pourquoi certains sont fidèles et passent ces années en famille ou même seuls dans la fidélité à leur baptême? Pourquoi parmi vous il en est qui ont toujours pratiqué, qui sont toujours venus à la messe le dimanche, qui ont toujours respecté le troisième commandement? Pourquoi il y a parmi vous des personnes qui se confessent, suivant le commandement de l'Église, toujours au moins une fois par an? Pourquoi il y en a parmi vous qui communiez à Pâques en préparant cette communion d'une manière toute particulière? Selon le commandement de l'Église, nous devons communier dans le mois précédent ou le mois suivant le jour de Pâques. Car avant, c'était 15 jours avant, 15 jours après. De nos jours, c'est plutôt un mois avant, un mois après. Nous avons 2 mois pour nous préparer spirituellement. Et par coutume, les baptisés unissaient ces 2 commandements de l'Église pour faire une confession sincère et bien préparée avant la communion pascale. Et donc, il y avait de nombreuses confessions dans le temps pascal pour faire une sainte communion pour le jour de Pâques ou les jours qui entouraient Pâques. Mais pourquoi? Pourquoi avoir une pratique religieuse? Pourquoi ce troisième commandement, alors que le premier commandement nous demande de croire en Dieu, de croire qu'il y a un Dieu créateur? Mais finalement, comme je le dis souvent, cette vérité est particulièrement attaquée. Donc finalement, le premier commandement n'est pas si anodin. Le deuxième commandement, c'est de ne pas blasphémer, de ne pas jurer en vain, de ne pas invoquer Dieu sans respect. Mais ce troisième commandement, c'est la pratique religieuse, c'est la sanctification, et une sanctification qui n'est pas seulement personnelle, mais sociale, familiale. De trouver dans le jour du Seigneur le moment du repos et le moment de la prière, qu'il y ait une finesse particulière à vous accueillir dans de belles églises, à vous accueillir dans un moment où tout a été préparé avec piété, où l'autel, où le service de messe, où les chants, où une scola a répété, et cela depuis tant de temps, où pour la 11e heure, cette même scola, dans ses membres, vous donne les vêpres chaque dimanche pour que ce jour soit spécialement sanctifié. Pourquoi ce troisième commandement, alors que bien souvent on nous dit que l'honnête homme respecte le 4e commandement et ses parents? Il n'est pas violent, il n'est pas débauché, Il ne ment pas, il ne vole pas, il n'est pas jaloux. Pourquoi cette honnêteté devrait être nécessairement liée à une pratique religieuse, au fait de se déplacer et d'aller dans un lieu commun pour prier? Eh bien, parce que justement, nous ne sommes pas des individus tout seuls. Et saint Paul, aujourd'hui, dans cette septuagésime, dans ces 70 jours qui nous séparent de Pâques, va nous dire que le salut, c'est-à-dire le choix libre, authentique, d'aimer celui qui nous aime, d'entrer en relation avec lui, non pas seulement le craindre, mais croire en lui et croire en sa providence, croire en sa bonté, eh bien, c'est une réponse nécessaire pour notre nature humaine. Nous ne pouvons pas être indifférents à ceux qui nous donnent la vie, même si maintenant nous n'avons plus ni père ni mère, mais un parent 1 et un parent 2. Mais cela, ils ne pourront jamais le détruire. Quand bien même vous auriez été, peut-être parmi vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est né par procréation médicalement assistée, par un acte contre nature qui ne respecte pas l'intimité d'un homme et d'une femme qui, dans le mariage, s'unissent pour des années dans la fidélité et dans l'ouverture à la vie. Ceux qui prennent avec résignation, mais aussi avec offrande et sacrifice, le fait d'être stérile et qui, hommes et femmes, dans des années ensemble, n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas voulu utiliser des moyens qui suscitaient la vie par la nature elle-même, par la vie cellulaire elle-même, la mise en contact de ces deux cellules de vie, de l'homme et de la femme, mais en dehors de l'acte d'amour, pour que les uns meurent, les autres soient implantés, meurent pour un grand nombre, et pour les rares qui restent encore et qui peuvent se développer dans le ventre de leur mère ou d'une femme qui n'est même pas à l'origine par sa propre chair de cette vie, va recevoir cette vie pendant 9 mois pour ensuite la vendre, eh bien tout cela est tellement éloigné de la vérité, non seulement individuelle, mais familiale et sociale. Mais alors, c'est de la morale à nouveau. Oh, ce n'est pas seulement de la morale. Parce que ce Dieu, justement, il est patient. Ce Dieu, dans la parabole d'aujourd'hui, il est miséricordieux. Et si parmi vous, il en est qui vont à la messe depuis leur enfance, vous acceptez bien sûr, après tant de siècles de cette parabole, qu'il en est qui viennent alors qu'ils n'avaient 15 ans, 25 ans, 28 ans, 35 ans, et qui trouvent le chemin de l'Église, non pas seulement du lieu, de la bâtisse, mais de la maison de Dieu, de la maison où l'on célèbre le Saint Sacrifice, qui est à la fois repas pascal et crucifixion et résurrection. Dans ces tabernacles du monde entier où le Christ nous attend, lui qui s'est fait homme et qui veut se donner à nous. Oui, aujourd'hui même, alors que les prêtres, les évêques sont bousculés par leurs propres péchés, mais cette faiblesse humaine, cette fragilité, le, Christ, son Père, la reçoit avec cette parabole dans cette complexité humaine. Les uns ont toujours été fidèles, les autres sont venus sur le tard, et ils reçoivent la même récompense, ce denier qui est la vie éternelle. Et il y a un murmure. Comment peut-on murmurer si l'on est dans la vie éternelle? Si l'on voit Dieu, si l'on voit les âmes qui sont sauvées, qui sont dans le salut, qui sont dans le bonheur du ciel. Non, ce murmure, il est de maintenant. Les uns murmurent parce qu'ils sont jaloux. Les autres murmurent parce qu'ils sont indignés. Et justement indignés, scandalisés. Et Dieu nous dit, pourquoi ton œil est-il mauvais? Oh, ce n'est pas la malice de ceux qui sont dans l'indifférence profonde et qui rejettent Dieu et qui n'aiment pas leur prochain, qui, au fond de leur cœur, et c'est le secret de Dieu, je ne peux pas vous dire qui, n'aiment pas leur frère, leur sœur, leur père, leur mère. « Famille, je vous hais, disent-ils. » Et ce sont les mêmes qui violentent l'Église, qui violentent tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui veulent croire et espérer malgré leurs propres péchés, malgré les péchés du monde. Voilà donc ce Dieu qui nous dit « Pourquoi as-tu l'œil mauvais? Est-ce parce que je suis bon? Je fais de mes biens ce que je veux. » Et saint Paul nous dit que tous ceux qui sont entrés dans l'Alliance n'ont pas été sauvés. Alors, il y a cette dernière phrase sur laquelle je vais conclure, pour vous faire peur, pour garder cette autorité du sacerdoce, cette autorité cléricale. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Je vais vous menacer de l'enfer. Je vais vous menacer de ce lieu de perdition. Mais seulement, ce lieu de perdition, c'est un lieu volontaire. Dieu ne jette pas les âmes en enfer. Ce sont les âmes qui choisissent de ne pas aimer Dieu et leurs prochains. Et c'est un véritable mystère. Oui, comment une âme peut froidement et cyniquement, au moment de sa mort, refuser d'aimer alors que la nature humaine ne peut pas être seule, ne peut pas vivre dans une rupture avec le monde qui l'entoure. Nous sommes blessés lorsque nous haïssons et nous perdons notre temps. Nous sommes oisifs et Dieu nous dit « Qu'est-ce que vous faites là sur la place à ne rien faire ?» Que nous puissions agir, que nous puissions croire, que nous puissions espérer, que nous puissions nous aimer les uns les autres et avec intelligence, que la Vierge Marie puisse, dans sa prière si puissante, sur le cœur de son Fils à Cana et maintenant, obtenir la connaissance du vrai Dieu, la connaissance du Père, la connaissance de ta parole éternelle, de son Fils, de cet enfant Jésus, de cet homme, de celui qui va nous parler de son Père et qui va mourir à cause des péchés du monde et vaincre la mort par sa résurrection. Oh oui, que la Vierge Marie puisse nous convertir, convertir tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Personne ne nous conduit, répondent ceux qui sont sur la place. Oui, que nous puissions avoir de saints prêtres, de saints évêques et de saints papes, de saints pères de famille, de saintes mères de famille, de saints enfants qui puissent nous conduire, nous porter et nous consoler. Voilà pourquoi nous sommes ce matin dans cette église, pour entourer le Christ qui donne sa vie, qui reprend sa vie et qui nous la donne par les mains de Marie, avec notre ange gardien à nos côtés et tous les saints du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.